Bon, et maintenant, tous ensemble.
Vous venez avec nous?
Allons.
Bien sûr, l'aventure continue.
Maintenant, je fonce, Alphonse.
Ah, c'est bien, alors, allez, on y retourne.
Cela fait plus de 40 ans qu'ils semblent nous narguer en nous envoyant des cartes postales depuis les îles les plus paradisiaques de la planète. Chemise à fleurs et teint bronzé, les cheveux toujours longs, bien que cela fasse plus d'un siècle que sa mère lui a dit « Antoine, fais-toi couper les cheveux ».
Dans 50 ans si tu veux.
Le chanteur des Élucubrations a fait de sa vie un éternel voyage. Parti pour un tour du monde à la voile en solitaire de 5 ans en 1974, Antoine n'est jamais vraiment rentré. Où qu'il se trouve, il est toujours de passage. Ses voyages et ses découvertes, il les partage à travers ses films, ses livres de photos ou encore son site internet. Son bateau a jeté l'ancre aux quatre coins du monde, mais il est un ensemble d'archipels au beau milieu du Pacifique où il se sent mieux que nulle part ailleurs, où il finit toujours par revenir. Comme d'autres avant lui, il est tombé sous le charme de la Polynésie. Il en connaît les moindres îlots. Devant les décors de cartes postales qu'il nous envoie, on ne peut s'empêcher de rêver, de s'y voir et de s'interroger aussi. Que fait-il de ses journées? Sa vie ressemble-t-elle vraiment à des vacances qui ne se seraient jamais arrêtées? À quoi ressemble son quotidien sous les cocotiers? Est-ce qu'une certaine routine a fini par s'installer? Et que retient-il de ses 40 années passées à voguer d'île en île? Nous allons le savoir cet après-midi. Antoine fait escale dans le temps d'un bivouac.
On n'a pas eu de nouvelles encore des cordages. Je revois le bateau à l'endroit, je repense à faire des essais de gazon. Bon, allez. Attention, vous allez avoir la vue sur mon postérieur. J'ai pensé de regarder sous mes jupes.
Le bruit qu'il y a là, le bruit de l'eau, c'est vraiment comme en bateau. Là. Le toit est très mince dans cet atelier. Et c'est vraiment comme en bateau quand tu es enfermé et qu'il y a un grain tropical qui passe et que ça ruisselle et que tu fermes tout. Et tu t'en fous parce que tu sais que comme tu as installé une toile pour recueillir l'eau, bah, tes réservoirs vont être pleins d'eau à la fin. Et puis c'est bien parce que quand la pluie arrive comme ça, c'est généralement que le vent tombe. Le vent, il souffle fort avant. Et quand arrive la pluie, le vent se calme alors.
C'est amusant ça.
Oui, bonjour Antoine.
Bonjour. C'était pas une émission, c'était pas Jean-Luc Hesse qui était venu m'interviewer, ça?
Oui, c'est ça. C'est bien Jean-Luc Hesse qui était venu.
C'est ça, voilà, je me rappelle. C'était,
quelle mémoire!
C'était inoubliable. Je construisais mon deuxième bateau. Enfin, je construisais pas, c'est le chantier qu'il avait construit. Moi, je faisais tout l'intérieur. Et là, il m'avait trouvé dans une situation terrible. J'étais en train de coller un truc au plafond. J'avais de la colle partout et tout. L'émission, c'était assez inoubliable.
Ouais. Mais même dans votre atelier, à partir du moment où vous êtes près de votre bateau, on sent que vous êtes dans votre élément.
Ben, c'est bon, ça fait un petit moment, quoi.
Ouais.
Ça fait un petit moment, c'est marrant, j'étais pas du tout prédestiné à ça. Hein.
Ouais.
Mes parents m'avaient jamais fait naviguer, j'avais pas de navigateur dans la famille, j'avais traversé des océans, mais sur des paquebots, parce qu'on allait aux affectations de mon père dans les travaux publics de la France Outre-mer, donc j'avais fait de la navigation, mais pas du tout sur des petits bateaux à voile, quoi. Et ça a été un coup de foudre tout d'un coup, quoi. Ouais. Ça a été un coup de foudre.
Alors aujourd'hui, vous ne passez pas plus de 3 mois par an en métropole. Là, vous passez à Paris, on vous attrape entre deux vols, hein. C'est une escale très courte. Quelques jours, à quoi ça ressemble une année type pour vous?
Bah, c'est difficile, mais c'est assez varié, quoi. Il y a des années où il y a pas mal de navigation.
Ouais.
Par exemple, il y a 2 ans, il y a 3 ans, je suis allé chaque année, j'ai fait à peu près au moins une traversée de la même longueur que la route du Rhum, mais pas en course, quoi. Pour aller de Polynésie jusqu'en Australie.
Ouais.
Et puis ensuite revenir par la Nouvelle-Zélande et par les îles australes. Et puis il y a d'autres années, comme cette année-ci, enfin, ou plutôt l'année dernière, où c'est vraiment localisé, quoi. Où je ferai pas plus que quelques centaines de milles en tout, ouais, en naviguant d'île en île. Et on a une passion, ma compagne et moi, pour des îles où il y a personne. Ouais.
Et quand vous accostez sur des îles au bout du monde où il y a quand même une ou deux personnes, est-ce qu'on vous parle encore de votre carrière de chanteur?
Oh bah ça en fait partie. Ouais. C'est comment dire, c'est indéracinable ça. Ça on en parle toujours.
Ouais.
On me parle aussi de ma carrière dans la publicité.
Évidemment.
Avec les
plus récente.
Avec les opticiens. Moi, c'est amusant, quoi.
Ouais.
C'est vrai que on est un petit peu, toute personnalité est toujours un petit peu réduite, surtout si on a été très voyant, ouais, très visible dans le show business, un peu réduite à 2-3 choses, à ouais, 3 mots d'une chanson, d'un ouvrage, etc. Mais moi, je voyais, par exemple, je suis en train de lire Cervantes. On dit, parle de Cervantes, on parle de Don Quichotte. De quoi on parle tout de suite? Les moulins à vent.
Mm-hmm.
Or, les moulins à vent, ça dure 2 pages dans, ouais, le livre, quoi.
Alors que quand on parle d'Antoine, eh bien, on pense à ça.
Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. rien. L'autre jour j'écoute la radio en me réveillant. C'était Yvette Tornier qui jouait de l'accordéon. Ton accordéon me fatigue Yvette, si tu jouais plutôt de la clarinette. Oh yeah.
Rien de maritime là-dedans. Hein. Rien de maritime.
On n'a pas pu s'en empêcher, Antoine. Bah oui. Vous nous pardonnez de vous la resservir à chaque fois qu'on vous rencontre.
Ça me gêne pas du tout. J'ai eu la chance d'avoir. J'ai toujours la chance d'avoir dans ma vie des moments différents comme ça, d'avoir des moments de succès, parfois un peu excessifs. Là, ça avait été un peu excessif, les élucubrations. C'était un petit peu à en perdre la tête, quoi.
Ouais.
Et comme on disait l'autre, comme disait Warhol, ces 15 minutes, son quart d'heure de gloire. Mais j'en ai eu plein des quarts d'heure de gloire dans tous les domaines, dans les livres, dans les films, dans la publicité, dans la chanson.
Ouais.
Alors je dois être né sous une bonne étoile, ouais. Sans aucun doute.
Et alors, cette chanson, comme vous dites, un quart d'heure de gloire, alors c'était un peu plus long qu'un quart d'heure de gloire, mais pour l'écrire, j'ai l'impression que vous l'avez écrite en un rien de temps, au lit.
Oui, oui, je me réveillais un matin, j'allume la radio, et c'était l'époque, il y avait de l'accordéon, il y avait des émissions régulières d'accordéon, et c'est Yvette Horner. Ah, je lui dis, ton accordéon me fatigue, Yvette, et j'ai éteint la radio, et je suis retourné pour dormir. Et tout d'un coup, ça a tourné dans ma tête, ton accordéon me fatigue, Yvette. Et tout d'un coup, j'ai écrit la chanson.
Ouais. Ouais.
J'avais pas écrit tous les couplets mais un quart d'heure après, je me suis rendormi et j'avais bouleversé ma vie, quoi.
Oui, sans le savoir.
Je ne savais pas encore.
Et alors, à cette époque, vous êtes élève à l'école centrale, hein, élève donc dans une école d'ingénieurs prestigieuse. Nous sommes en 1965.
65, voilà.
Vous avez 20 ans, 21 ans?
J'avais 21 ans, oui, j'étais.
Et vous vous retrouvez en quelques mois propulsé sur le devant de la scène.
Ah ben oui, je pense que personne n'a jamais été, peut-être certaines stars de la télé-réalité maintenant,
oui.
Genre Loana ou Nabila.
Voilà, vous êtes le Nabila
avec,
de l'époque.
Moi, avec moins de poitrine, c'était inouï parce que le 15 février, j'étais inconnu.
Ouais.
Et le 20 avril, j'étais en vedette à l'Olympia.
Oui.
C'est le jour de vos examens.
Vous passiez vos examens
voilà,
le même jour que vous étiez à l'Olympia.
C'est jamais arrivé à personne, ça.
C'était
complètement dingue. C'était la folie. En plus, bon, j'avais cette chanson, j'avais ma personnalité, c'était 2 ans avant 68.
Ouais.
Il fallait que ça pète, on savait pas comment ça allait péter. Tout ça avait été très excessif, ça correspondait pas réellement à ce que j'ai au fond du cœur, mais je le renie pas du tout.
Alors, on a du mal à s'en rendre compte et à le croire hein, quand on n'a pas vécu comme moi cette époque, parce que on vous voit avec vraiment cette voix chaleureuse, ce sourire, quelqu'un de très avenant. Et à cette époque, vous êtes, comme on dirait aujourd'hui, clivant. Vous n'êtes pas du tout consensuel. Il y a ceux qui aiment Antoine et ceux que vous agacez.
Ah oui, oui, c'est clair. Il y avait anti-Antoine et les pros. Hein, c'était très fort, quoi. Et ça me plaisait pas.
Ouais.
Ça me plaisait pas parce qu'à un moment, moi, je m'étais mis à chanter. J'imaginais pas que ça allait entraîner ce clivage hallucinant,
ouais.
Quoi. Et bien, au point qu'un jour même, je raconte souvent cette anecdote, après, à la fin de sa première tournée, un jour j'arrive à une station-service pour faire le plein, et le garagiste me dit, vous êtes Antoine? Je vous sers pas.
Ouais.
J'ai dit, attends, je vais pas me faire passer une vie comme ça, avec la moitié de la France ouais. qui me déteste, et ouais. L'autre, alors. Donc j'ai rectifié le tir.
Ouais. Et vous étiez aussi mis à dos Johnny Hallyday, ça a été complètement monté un peu en épingle, cette histoire.
Non, ça a été plutôt spontané, plutôt naturel. Moi, j'avais mis une phrase plutôt surréaliste qu'autre chose, quoi,
ouais.
Qui était on verrait des avions dans les couloirs du métro. Et Johnny Hallyday en cage à drano, ça rimait, c'était bien. Bon, je faisais un peu une pique à Johnny parce qu'il s'était un peu endormi. Puis après, mon succès est devenu tellement, le succès de la chanson est devenu ouais. tellement excessif qu'il y a des gens autour de lui qui ont dit, faut que tu répondes.
Enfin, évidemment, après, vous vous êtes réconcilié. Ouais. Alors, il y a eu de nouveau la guéguerre avec la guerre des pubs d'optique.
La guerre des pubs, oui,
c'était par opticien
interposé.
Vous étiez réconcilié, évidemment, à ce moment-là. Alors, il y a aussi, vous le dites, quand même, cette envie de prendre le large assez rapidement, de couper les ponts avec cette...
De toute façon, moi, je rêvais déjà, c'était tissé dans mes choix de faire de la chanson, etc. C'était de partir dans la nature. Je savais pas encore, à l'époque, on rêvait tous d'aller dans les Cévennes, élever des chèvres dans les
ouais.
Cévennes. C'était vraiment juste avant l'invention du mot hippie, quoi, on était beatnik.
Ouais.
J'avais fait la route, je dormais dans les champs de blé. Et quand ce succès est arrivé, m'a bousculé totalement. Et les premiers sous qui sont arrivés, j'ai acheté une maison à la campagne. Voilà.
Ouais.
Mais perdue ouais. sur un plateau dans le Massif central. Et j'y ai vécu. Partiellement, parce que je partais faire des émissions dans
et, oui.
et chanter dans tous les pays d'Europe. Mais j'ai vécu près de 8 ans, quoi. Et c'était une forme de retour à la nature. J'avais, j'avais des vaches et j'ai toujours cette ferme. Maintenant, il y a des moutons.
Oui.
Mais un jour, le bateau est arrivé tout à fait par accident.
Alors, comment le bateau arrive justement dans votre...
Donc, j'avais pas du tout, je vous disais, j'avais jamais fait de bateau à voile. C'était pas du tout un truc dans les mœurs de ma famille. Et un jour, vraiment, j'avais loué une maison à Saint-Raphaël parce que je faisais une tournée des galas, des galas qui se passaient. Je rayonnais autour de ma maison, quoi, pendant un mois d'été. Moi, je crois vraiment au déclic, quoi, qui vous change la vie, quoi. Mmh. Et là, il y avait, dans un hangar, au bord de l'eau, de cette villa, il y avait un petit bateau, un petit dériveur, chose sur lequel je serais jamais monté de ma vie. Moi, ça m'intéressait pas du tout, quoi. Pas du tout, du tout, quoi. Et un copain me dit, allez, cet après-midi, on a pas de gala ce soir, cet après-midi, on va faire un petit tour en bateau. Tu crois? Bon, j'y vais et tout. Et ça m'a changé la vie encore une fois, quoi.
Ouais.
Là, je suis sorti de ce bateau qui prenait l'eau, qui était une épave totalement. Je suis allé acheter une méthode pour apprendre à naviguer en dilson. Et sur l'étagère, il y avait un livre qui était là, qui disait, vous savez, moi, je dis souvent, on dit que les livres sont on croit que c'est des objets inanimés. C'est pas vrai du tout, c'est des êtres vivants, les livres. Ils sont là, ils sont sur l'étagère, puis ils vous attendent, hein. Ils savent que vous allez passer devant qu'ils vont vous happer, comme un mérou qui attrape. Voilà. Et là, donc, celui-là, il m'a attrapé. Et c'était un récit d'un groupe un récit qui n'a pas eu grand succès, mais un groupe d'artistes. Il y avait un cinéaste, un musicien, un photographe, qui avait fait un tour du monde sur une goélette qui s'appelait l'Europe. Et j'ai dit, bon sang, mais ça, c'est bien sûr.
Ouais.
Avec les copains qui étaient avec moi ce jour-là, on dit, on va faire ça.
Ouais.
On va partir pendant 5 ans. Et puis ensuite, il s'est passé que pendant 5 ans, les copains, ils avaient...
Se sont dégonflés.
Il y en a un qui, bon, pas vraiment dégonflé, mais un qui s'est marié, l'autre qui a eu un avancement, l'autre qui a eu une carrière, etc. Et
si
tout,
bien que pour vos 30 ans, en 1974...
Je suis parti naviguer.
Mais tout seul, en solitaire.
Oui, tout seul.
En solitaire et sur le port de Marseille, ce jour-là, les journalistes se pressent pour recueillir vos derniers mots avant le grand départ. Nous sommes fin septembre 1974.
Et ce voyage autour du monde, c'est une fuite ou une recherche?
C'est une recherche. Une fuite, j'ai rien à fuir. Même j'ai l'intention de revenir tous les ans passer 3 mois en France, 3-4 mois en France, faire un disque, faire un peu de radio, un peu de télévision. Mais je crois pas que l'être humain est fait pour travailler 11 mois ou 12 mois par an. Je crois au contraire qu'on est fait pour avoir des aventures, quoi, pour vivre un peu, pour essayer de renouveler un peu son horizon de vie.
Le tour du monde en solitaire, c'est une épreuve physique et morale.
D'abord, je ne sais pas si je fais complètement le tour du monde. Je pars à l'aventure. Je pars me balader autour du monde, mais je ne sais pas si je fais le tour du monde. Pour cet hiver, je descends de la côte africaine. Mais c'est pas du tout. Je cherche pas du tout à faire une course. Moi, je vais m'arrêter des centaines de fois. Je vais m'arrêter partout, à plein d'endroits différents. Je ne vais surtout pas faire le tour du monde sans rien voir, en ne voyant que de l'eau. Ce qui est une très belle chose, certainement. Une très belle chose aussi. Mais c'est autre chose, moi. J'ai envie de naviguer un peu tranquillement.
Vous vous souvenez de l'état d'esprit dans lequel vous étiez, Antoine?
Oh ben, j'ai pas changé, je suis le même. Hein.
Ouais.
Je suis le même 50 ans plus tard.
Mais vous ne saviez pas trop dans quoi vous vous embarquiez à vous écouter?
Ben, je savais pas trop, non. Mais j'avais quand même lu pas mal de... Après le livre dont je parlais tout à l'heure, j'avais lu des livres d'illustres prédécesseurs, et des jeunes, des plus jeunes, des moins jeunes. Certains étaient devenus mes copains, certains étaient devenus mes amis, m'avaient conseillé, m'avaient... indiquer d'autres personnes qui pouvaient m'aider, etc. J'avais déjà bénéficié d'une grande solidarité comme ça. Et bon, ben, c'était, je savais pas, mais je savais que ça serait passionnant.
Ouais.
Je savais que ça serait passionnant.
Parmi les livres que vous aviez lus et qui vous avaient inspiré, il y avait ceux d'un certain Bernard Moitessier, célèbre navigateur, qui était parti à l'aventure avant vous. Je vous propose de l'écouter, s'enregistrer sur un petit dictaphone en pleine mer, seul.
Ah, oui, c'est...
Vous entendez? C'est le bruit de la mer. Ça fait des mois et des mois que je l'écoute, et ça me suffit. On a l'impression que c'est toujours le même bruit, mais je vous assure, elle me dit des tas de choses que je commence seulement à comprendre un peu maintenant. Et vous voyez, eh ben, c'est pour ça que je continue. Et il faut aller plus loin, vous voyez.
Mais là, je suis ému, là, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a été... Et moi, je dis, j'ai eu deux pères, un père, mon père biologique et mon père bien-aimé, qui est mort à 68 ans, très jeune, et Bernard Moitessier, qui lui est mort à 69 ans, ou à peu près au même âge, quoi.
Vous l'aviez rencontré, hein.
Ah, j'ai rencontré très longuement, j'ai rencontré à Tahiti, j'ai retrouvé dans une île perdue des îles Cook, c'est tout à fait mythique et légendaire, quoi. Et puis on s'est retrouvés un peu partout, j'étais présent le jour où il a demandé à sa compagne d'écrire le mot fin sur le manuscrit de son livre mythique, la Tamata ou l'Alliance, quoi, son livre formidable, son livre testament, quoi, qui a eu un succès extraordinaire, quoi. Donc c'est quelqu'un dont j'étais très proche et très, très admiratif de lui, quoi. Et puis on avait des conceptions un peu différentes sur la navigation. Moi, j'allais vers plus de modernisme, etc. J'étais prêt à accepter des choses plus modernes. Lui, il était plus, mais il était très ouvert. C'était pas du tout un type passéiste et rétrograde.
Le rapport à la solitude, j'ai l'impression que vous aviez un peu le même. Pas de peur de se retrouver seul face à soi-même.
Ah, ben non. Alors moi, ça m'a jamais fait peur une seconde de me retrouver. Ouais. J'ai eu des peurs du mauvais temps, peur de la panne, peur du naufrage, des choses comme ça. Mais j'ai jamais eu peur de la solitude. Ça m'a jamais posé le moindre problème. Je me suis retrouvé très rapidement, au bout de quelques mois de navigation, j'ai fait une de mes plus longues étapes de ma vie, 42 jours sans rencontrer personne, quoi. Ouais. Mais c'était pas dans une idée de course, quoi. C'est aucun rapport avec la course, quoi.
Pour beaucoup de Français, Antoine, vous êtes l'homme qui a fait un tube, puis qui est parti en vacances définitivement.
Oui, c'est une caricature. C'est bien. Non, moi, j'adore, quoi.
Mais nous allons justement essayer d'aller au-delà de la caricature et d'en savoir un peu plus. Dans un instant, vous allez nous emmener à la découverte des archipels de Polynésie que vous connaissez si bien et qui aimantent votre bateau depuis plus de 40 ans. Nous sommes avec Antoine, le temps d'un bivouac sur France Inter.
Je suis la fille sans joie d'un demain sans fête, une larme sans poids, une boîte sans lettres. Je suis piscine de bar, une piscine d'hôtel, sur mes côtes d'azur s'échouent les âmes faibles. Ma salive sans le chlore, mon lit décontamine. On s'y pousse, on s'y mêle, on y commet des crimes. Je suis piscine de sang, une piscine qui sait se taire et faire semblant.
C'était Piscine de Camille sur France Inter.
Au marinier, au marinier, il est trop tard pour rêver. À l'escale que tu quittes, aux filles que tu as aimées. Ce qui t'attire, c'est la ligne d'horizon. Elle seule t'inspire cette chanson. Ce qui t'attire, c'est la ligne d'horizon. Elle seule t'inspire cette chanson. Je ne suis pas d'ici.
Une de vos chansons, Antoine, moins connue que les élucubrations, mais qui correspond plus à votre vie d'infatigable globe-trotteur. Marinero, c'est
oui,
le titre.
Chanson résilienne que j'avais adaptée.
C'est une adaptation.
Oui, c'est une chanson de Caetano Veloso et de Gilberto Gil que j'avais rencontré. Ouais. J'avais été copain avec eux dans ma vie de chanteur, où j'étais allé faire le festival musical de la chanson à Rio. Et moi, dans mes chansons, comme dans les livres d'ailleurs, j'ai toujours mis mes voyages. J'ai toujours mis mes voyages.
Mais d'ailleurs, le voyage, ça ne vient pas après la chanson. C'est là depuis le début dans votre existence. Vous naissez à Madagascar, vous n'y restez pas 2 ans que vous voyagez déjà. Vous allez jusqu'au Cameroun. Très jeune, vous allez aux États-Unis, vous traversez l'Europe. Le voyage fait partie intégrante de votre vie.
Ma toute première chanson s'appelait Autoroute européenne numéro 4. C'était l'autoroute qui me menait jusqu'en Suède. Et donc, je racontais une émotion d'un soir, au coucher du soleil sur cette autoroute.
Et puis,
en autostop, évidemment.
Il y a évidemment, on en parlait juste avant la première pause musicale, ce grand départ en 1974. Nous l'évoquions pour un tour du monde en solitaire qui va vous conduire vers un lieu. Alors ça, ce lieu va vous marquer. On est 3 ans après le départ, et c'est un choc.
Voilà. Bon, j'avais également lu les récits, les émotions de mes prédécesseurs, entre autres Alain Gerbeau, qui avait choisi de pas se diriger vers les Marquises, mais vers cet archipel du Sud, moins connu, qui s'appelle les Gambiers.
Donc on est en Polynésie.
En Polynésie, voilà. C'est le premier archipel qu'on rencontre. Les Marquises, quand on arrive de l'Est, quand on arrive d'Amérique, des Galapagos ou de Panama, on peut aller aux Marquises d'abord, ou aller aux Gambiers. Et moi, j'étais tenté par les Gambiers, je sais pas pourquoi. Et de l'instant où j'ai jeté l'ancre en avril 77, sous le vent de ma première île polynésienne, j'ai plus été le même. J'ai plus été le même. Je m'en suis pas aperçu tout de suite, remarqué, parce que je savais pas. Cette année-là, j'ai passé peu de temps dans ces îles. J'étais dans une mouvance pour faire un tour du monde en 5 ans. Faut quand même aller assez vite, quoi. Faut pas trop traîner, quoi. Mais depuis, je suis retourné en Polynésie des dizaines de fois, et c'est là que je passe maintenant les 2/3 de l'année, quoi, de la plupart des années. Ouais. Et c'est là que je me sens bien. C'est ma maison, quoi. C'est ma maison là-bas.
C'est ça, avec un jardin qui fluctue au gré des escales.
Voilà.
D'ailleurs, en lisant l'un de vos derniers ouvrages, très beau livre de photos publié chez Gallimard, Escale en Polynésie, on se rend compte de l'extraordinaire diversité de ces îles polynésiennes. Alors, il y a plusieurs archipels, et chaque archipel est très, très différent.
Très différent par la géographie. Certains sont des volcans il n'y a pas de volcans actifs, mais des volcans relativement jeunes, quoi, comme les Marquises, qui sont très, très, très montagneuses. Les îles, d'autres ont des volcans et autour une ceinture de corail, comme les îles de la Société, et puis d'autres n'ont vraiment même pas de volcan, même pas de montagne, rien. C'est là à eux que va ma préférence, parce que...
Donc là, c'est l'anneau corallien, c'est le banc de sable
blanc.
C'est
l'atoll, excusez-moi, c'est l'atoll qui, souvent, est interdit par le fait qu'il n'a pas de passe, on ne peut pas y rentrer. Mmh. Alors, certains navigateurs, ils débarquent avec des chaloupes, des baleinières, où ils se jettent sur le récif et ils débarquent comme ils peuvent. Mais nous, on essaie de pas sauter sur le récif avec nos bateaux. Et dans ces atolls, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'une fois qu'on est rentré dedans, l'océan Pacifique, attention, il est pacifique, mais il peut être très agité, hein. Il peut être très, très agité. Et quand on voit un atoll comme ça, et qu'on sait qu'il n'y a pas de passe, désespérant, c'est le supplice de Tantale. Ouais. Mais quand il y a une passe, et qu'on peut la prendre, que les conditions sont favorables et tout, une fois qu'on est dedans, c'est le bonheur. Je dis l'atoll, c'est un peu l'emballage étanche qui protège de l'humanité.
Ouais. Ah oui, vous le voyez comme ça, protégé du reste du monde. Voilà. Cette histoire de passe, hein, pour ceux qui ne sont pas familiers de ces lieux, c'est soit l'anneau est ouvert et on peut rentrer au centre de l'atoll comme une sorte de lac intérieur.
Voilà, c'est un vrai lac à l'intérieur. Voilà.
C'est ça. Ou alors l'anneau est complètement fermé.
C'est le supplice de Tantale. Voilà. Ouais. D'ailleurs, quand on arrive au Gambier, on en passe un qui est magnifique, ça s'appelle l'atoll de Temoé, et qui n'a pas de passe. Ouais. Mais ensuite, les Gambiers on dépasse, et là, donc ça m'a frappé. Je sais que je suis arrivé la première fois, c'était en 77. Je suis tombé à genoux sur le sol, tellement ça ressemblait à Gauguin, quoi.
Ouais.
Sur le quai, il y avait 2 vahinées, il y avait un bananier avec un régime de bananes dessus et tout. J'ai cueilli une banane, c'est rare qu'on puisse manger une banane qu'on cueille sur l'arbre, parce qu'on les cueille vertes en général. Mais là, tout était parfait. Je suis tombé à genoux, j'avais mis 39 jours, je crois, 39 jours avec des pannes, des problèmes de coquillages qui poussaient sur la coque et tout. Depuis, j'ai plus été le même. Donc, j'y suis retourné. Depuis, j'ai fait 2 fois et demi le tour du monde. Je suis retourné aux Antilles, aux Caraïbes, etc., au Brésil et dans plein d'endroits. Mais c'est vraiment en Polynésie que je me sens le mieux.
Ouais. Alors, vous n'êtes pas le seul à être tombé amoureux de ces îles. Il y avait un certain Paul-Émile Victor, l'explorateur polaire. Alors lui, il était tombé sous le charme de l'archipel des îles sous le vent, où il y a notamment Bora Bora.
Aujourd'hui, je suis merveilleusement bien à Bora Bora. Je crois que
comment vous prononcez ça?
Ah oui, pardon.
Oui, c'est joli.
Oui, au lieu de Bora Bora, c'est Bora Bora.
Bora Bora.
Ouais. Et en réalité, à la tahitienne, ce serait Bora Bora. C'est plutôt P que B. Oui. En réalité, ça vient aussi de mes activités. À savoir qu'à partir du moment où j'ai passé mes responsabilités de chef des expéditions polaires françaises, et que, avec Colette, ma femme, nous avons décidé de nous installer définitivement sur cet îlot que nous avions acheté il y a 30 ans, à partir de ce moment-là, la vie était complètement différente. Nous avons changé de vie. Et nous sommes passés de la vie de celle que vous disiez, là, avec des fourrures, à la vie d'un pareo autour de la ceinture, et c'est tout.
Donc le grand problème, c'est de ne pas s'habiller. Alors que je vous vois là, nous sommes ensemble tous les deux, vous êtes confortablement bourgeois, et là-bas, vous êtes plutôt en pagne, parfois même moins campagne.
Sans aucun doute,
à
moins
poil.
Campagne. Bien sûr, la Polynésie est un endroit absolument extraordinaire, unique au monde, où il n'y a pas d'animaux ennuyeux, sauf les moustiques. Mais les moustiques, on s'en débarrasse. Mais vous pouvez vous balader à poil, à terre ou dans l'eau, vous ne risquez rien. Il n'y a pas de serpent, il n'y a rien.
Nous étions Bora Bora, Bora Bora, sous le vent des cocotiers. Nous étions Bora Bora, Bora Bora, Tabarly danser le tamouret.
Paul-Émile Victor, interviewé par Jacques Chancel en 1991 avec cette petite chanson d'Antoine sur Bora Bora, où vous êtes passé, évidemment.
Oui, j'ai rendu visite plusieurs fois à Paul-Émile là-bas, c'était dans son île, c'était magnifique,
ouais.
C'était merveilleux. Dans mon tout premier livre, il y avait un chapitre entier sur le Motutane, l'îlot de Paul-Émile Victor, voilà. Et c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup aussi, avec qui j'avais une excellente relation.
Comment vous expliquez que cet homme qui toute sa vie était amoureux des pôles a finalement voulu passer sa retraite
pour
loin
moi,
des pôles?
Pour moi, je pense que c'est ces deux paysages, deux environnements aussi étincelants l'un que l'autre. Je pense que c'est aussi étincelant le bleu du lagon et le blanc des glaces. C'est aussi irréel, quoi. C'est aussi surhumain et aussi merveilleux.
Alors, cette vie de nomade, Antoine, que vous avez depuis, que vous avez adopté depuis le début, ne vous a pas empêché de fonder une famille, hein. Vous avez 3 enfants. Ils ont grandi à vos côtés sur le bateau, les 3 enfants.
Non, ils ont peu navigué avec moi. Ils ont été élevés. C'était clair, c'était prévu dès le départ avec leur maman. Moi, je continuerai à être le navigateur, le marin, le capitaine qui revient de temps en temps. Et on est content de le voir revenir. On est content de le voir partir aussi.
Une équipe de Thalassa était venue vous filmer alors que l'un de vos fils était à bord et que vous lui faisiez faire ses devoirs.
Oui, c'est ça.
Voilà. Je rappelle le haut. On le fait comme ça. On part d'en haut, on fait ça, et on tourne de haut comme ça. Voilà. Avec quoi il joue, là? Mimi?
Mimi joue avec une souris.
Mais c'est pas joue, c'est Mimi.
Mimi est avec une souris.
Voilà, Mimi est avec une souris.
Il va pas la manger?
J'espère qu'il va pas la manger, hein. Il joue seulement. Tu peux repasser la souris doucement.
Quel cadre formidable pour faire ses devoirs, Antoine.
C'était génial, ça, oui. C'était très mignon. Ça, oui, c'était Thalassa qui était venu et tout, me filmer. Et je dois dire que bon, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Thalassa, Georges, etc. Mais en même temps, le jour où ils sont venus, bon, c'était un système, quoi. C'était un système avec des salariés, des gens, une équipe, etc. Et j'avais été un peu déçu. J'avais été un peu déçu parce que c'était un système qui était, pour moi, qui n'était pas à même de montrer la beauté, l'immensité de la liberté qu'on avait comme ça. Ça rentrait pas dans les. Ça, pour moi, c'est vrai, ça rentrait pas dans Thalassa, quoi. Et en fait, ça m'a déclenché et quelques mois après, j'ai réalisé mon premier film moi-même.
Ah, quoi. C'est ce qui vous a donné envie de vous mettre à filmer.
J'avais déjà eu des propositions, des choses comme ça, mais là, tout d'un coup, je dis, ah non, je voudrais vraiment raconter de plus près ce qu'on voit, ce qu'on vit, comment ça se passe et tout, et que ça soit pas justement des trucs un peu racoleurs et tout, que ça soit au contraire là, montrer la beauté des endroits où on navigue. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier film, et j'en ai fait une trentaine maintenant. Quoi.
Et pour revenir à vos enfants, ils ont passé le bac, hein, depuis.
Ils ont grandi.
Le petit qu'on entendait. Et ils ont le goût du voyage.
Ils ont le goût du voyage. Et c'est merveilleux. Puis, ils ont, du coup, ces trois personnes pour qui j'ai une admiration très grande, parce que l'un, ingénieur en biologie, il est devenu consultant, il a fait un master en cybersécurité maintenant.
Ah,
incroyable.
Oui.
Et donc, il est consultant, il voyage dans le monde entier pour son travail. Le deuxième, il s'est installé à Montréal où il a une équipe de 60 personnes sous ses ordres pour faire des jeux vidéo, créer des jeux vidéo. Et la troisième, qui est cuisinière. Cuisinière, elle est dans des endroits incroyables comme le Bristol, comme un palace de Bora Bora ou dans deux étoiles à Courchevel et surtout dans des îles lointaines. Quoi. Donc, c'est des gens qui ont...
Vous leur avez tous transmis le virus du voyage.
Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas fait des longues navigations avec moi, mais ils en ont toujours fait régulièrement et ils ont toujours aimé ça. Quoi.
En tout cas, vous, Antoine, vous n'avez pas prévu d'arrêter de voyager. D'ailleurs, on va poursuivre notre voyage avec vous à la découverte des plus belles îles du monde. Geneba et Fusco qui chantaient Richer sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Bienvenue à bord, enfin façon de parler, parce que mon bord aujourd'hui est un peu renversé, oui. C'est pas que j'ai chaviré dans les 40e rugissant ni dans le bassin des Tuileries, c'est simplement que le bateau est encore en construction, mon nouveau bateau, oui. encore en construction et que là, on l'a mis la tête en bas, on l'a renversé pour coller au plafond une mousse qui sert de renfort, qui sert d'isolation. Alors là, je suis assis sur le plafond. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, bienvenue à bord de mon bateau renversé.
Nous étions en 1981, Antoine, voilà une de vos nombreuses casquettes que nous avions un peu perdu de vue. Vous êtes ingénieur de formation et vous avez participé bien sûr à la confection de vos bateaux. C'était lequel que vous construisiez en 1981?
Ça c'est mon deuxième bateau, c'est Voyage, un petit sloop de 10 mètres, qui était le premier, un des tout premiers à utiliser un mode de construction nouveau, ouais. Révolutionnaire, qui était en aluminium épais, en strangale, et avec sans aucune membrure à l'intérieur qui apporte une solidité incroyable. Quoi. Ouais. Mais mon bateau actuel, c'est un catamaran, mais ouais. Basé sur le même principe.
Donc Banana Split.
Voilà, c'est ça. Un bateau qui peut de temps en temps, qui a plus d'une fois été cogné sur un quai ou sur une patate de corail, ouais. Et qui survit, quoi, qui en s'en tire sans aucun problème.
Alors, au fil de cette discussion, on a vu la carrière de chanteur, de réalisateur de films, d'auteur de livres, d'ingénieur. Combien de casquettes, combien de métiers vous avez exercé?
Bon, un jour, j'ai essayé de compter les métiers pour lesquels, mais des vrais métiers, je dis pas des hobbies, hein, ouais. Des métiers, c'est-à-dire pour lesquels j'ai été payé, même des nefs, hein. Ouais. Et j'ai compté 27 métiers à peu près. Vous avez cité quelques-uns, mais j'ai été aussi éditeur, j'ai été aussi preneur de son, ouais. Conférencier, et même tout le temps de la publicité pour les lunettes, c'était mon emploi, c'était mannequin. Quand même pas mal ça.
Oui, vous avez été mannequin.
J'ai fait mannequin.
Alors, on se rend compte une extrême diversité de métiers, ce qui veut dire que cette image que l'on a depuis la métropole de l'éternel vacancier qui a fait une chanson dans sa vie et qui touche les droits d'auteur pour se bronzer la pilule à l'autre bout du monde, c'est faux.
Non,
vous travaillez.
Malheureusement, les droits d'auteur, moi, je pense que les droits d'auteur des élucubrations doivent me rapporter, c'est pas négligeable, ça doit être peut-être 800 euros par an. Quoi. Ouais. Donc c'est pas avec ça qu'on pourrait vivre.
D'accord. Non, donc non. Ça n'est pas à ce point une vie oisive.
Non, pas du tout.
Le mythe s'écroule.
Pas du tout. Depuis, mais il faut pas le dire. Hein. Personne n'écoute. je vais vous le dire à vous, mais faut le répéter à personne. Hein. Moi, depuis que je navigue, j'ai publié une douzaine d'albums de chansons, mais surtout j'ai publié une trentaine de livres. De livres, essentiellement des livres de photos. J'ai publié plus de 30, peut-être 35 ou 36 films, et je continue à faire. Et on travaille beaucoup. Ouais. Ma compagne et moi, j'ai la chance d'avoir trouvé une compagne qui est la personne la plus formidable que j'ai rencontrée de ma vie, quoi, qui est un événement essentiel et important de ma vie, et qui nous faisons tout ensemble, y compris tous ces travaux-là. Et c'est passionnant. Ouais. C'est passionnant, mais il n'en reste pas moins que c'est vrai, il y a des moments où on ne fout plus rien parce qu'on arrive dans une île tranquille là-bas. Bon, faut entretenir le bateau, il y a de quoi occuper, ouais. Un jeune homme déjà. Mais on est dans des coins où on s'installe pour 15 jours, 3 semaines, et là, il arrive qu'on ne voit plus personne. Ouais. Qu'on ne voit plus personne. Mais même là, on est équipé, la technologie nous permet maintenant de travailler sur le bateau, donc on est toujours un petit peu en train de travailler à nos prochains projets. Quoi.
Alors, dans ces coins où vous ne voyez plus personne, on va repartir un peu pour rêver avec... c'est un autre livre hein, qui est sorti, je crois, il y a 3 ou 4 ans, 40 escales, 40 ans de navigation, où vous avez choisi 4 îles, 4 destinations absolument paradisiaques, toutes plus paradisiaques les unes des
40,
autres.
40 îles, 40, oui. 40 destinations.
40 destinations. Destination, ouais. C'est ça. Alors, on va pas faire les 40, hein, non, on n'a pas sûr. Le temps. Si je vous en demande 4, 4 dont on pourrait parler, alors, je sais pas.
Madagascar, mon île natale. Mon île natale, je l'ai quittée, j'avais 2 ans. Donc, j'ai aucun souvenir de Madagascar réellement. Mais j'y suis retourné, je sais pas, 5 ou 6 fois. Et c'est formidable. Les Caraïbes, bien sûr, c'est beaucoup plus développé, il y a beaucoup de tourisme, c'est des tas de nations différentes avec des problèmes de formalité, d'adaptation et tout, mais c'est un archipel magnifique. En fait, on pourrait parler pendant des heures et des heures de tous ces coins, mais en choisir 4, ça me semble impossible.
C'est en voyageant que vous avez pris conscience des menaces aussi qui pesaient sur notre planète, la conscience écologique, elle est venue en voyageant.
Je l'avais déjà parce que c'était déjà un endroit, une chose qui me préoccupait dès les années 60, quoi. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on découvre les choses, entendons-nous, moi, je salue et j'admire le travail de Yann Arthus-Bertrand, de plein d'autres qui sont là pour qui dénoncent, comme Al Gore aussi, comme pour dénoncer tous les maux qui affectent la Terre et tout. Mais je serais incapable de gagner un centime en montrant ce qui est laid.
Ouais.
Moi, c'est pas, j'irai jamais chercher un oiseau mazouté pour le filmer parce que j'aurais honte, quoi. Alors je monte la beauté.
Ouais.
Et puis je me dis, et je sous-tends de ça d'une phrase, disant, regardez comme c'est beau, vous trouvez pas que ça vaudrait la peine qu'on me protège, quoi.
Tout de même, parfois vous utilisez vos passages médiatiques pour alerter.
Alors Antoine, en effet, Antoine qui nous a rejoint avec sa barbe fleurie.
Oui, on m'a demandé de venir parler de ce qu'on voit un peu au bout du monde, si on voit des traces de la pollution. Et moi, un jour, je pense que ça rejoint l'idée des mesures concrètes qui nous intéressent ce soir. Un jour, sur une plage d'un joli endroit, j'ai trouvé une carte de visite, une sale carte de visite d'un monsieur au demeurant plein de qualité, j'en suis sûr. Mais il y avait sa carte de visite qui traînait sur une belle plage. Alors, j'ai pensé que... Bon, il s'appelle Monsieur Leclerc, celui-là. Il aurait pu s'appeler Monsieur Suma ou Monsieur Mammouth ou Monsieur Carrefour, n'importe comment.
Et ça, c'était en Polynésie.
Je comprends pas pourquoi, comment il admet qu'il y ait son nom, sa carte de visite qui traîne sur les plages partout, parce que les sacs comme ça, ça dure 200 ans, on l'a dit. Alors, ce que je voudrais, c'est ce soir, puisqu'on est en direct, que peut-être il nous regarde ou quelqu'un d'autre ou de ses collègues, est-ce qu'il pourrait nous promettre, simplement, c'est ma seule suggestion pour ce soir, il pourrait nous promettre que d'ici moins d'un an, eh bien, chez Monsieur Leclerc comme chez les autres, eh bien, il y aura des sacs biodégradables, comme ceux qu'on a vu tout à l'heure, ou bien en papier recyclé, comme en Amérique. Voilà, c'est mon petit appel de surpratique.
Nous étions en 1989, interrogés par Patrick Poivre d'Arvor sur TF1. Vous étiez en direct, on ne pouvait pas vous couper. Ah, ça a eu des suites. C'était assez précurseur, hein, ce coup de gueule.
Oui, ça a eu des suites. Bon, PPDA s'est rattrapé, parce que je pense que Leclerc était un annonceur assez important sur TF1. Donc il a dit oui, mais c'est vrai que Monsieur Leclerc, il est très quand même. Ah, allez, enfin voilà, c'était un petit peu gêné. Hein, il y a eu un petit moment de doute parce que c'était pas prévu du tout.
Ouais,
hein, j'ai sorti ce sac en plastique de ma poche et tout. et c'est vrai que dans l'année qui a suivi, il y a eu un premier effort vers les sacs, mais c'est encore pas facile. Hein, je vois je vois Nicolas Hulot les difficultés qu'il a en tant que ministre là. Il y a du boulot encore. Hein, il y a du boulot.
Vous avez aussi plaidé la cause des océans en chanson. Bien sûr.
Touchez pas à la mer, ne dressez pas de frontières sur l'océan. Touchez pas à la mer, ne plantez pas de barbelés dans les lagons. Touchez pas à la mer, non, 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 non. Touchez pas à la mer, touchez pas à la mer. Épargnez les baleines et les grands oiseaux blancs. Touchez pas à la mer, gardez un peu d'eau claire pour vos petits enfants. Touchez pas à la mer, non, 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 non. Touchez pas à la mer.
Touchez pas à la mer, une chanson qui a déjà une trentaine d'années.
Elle a le même âge que mon fils aîné, voilà, c'est ça.
Ah oui. Et alors, il paraît que c'est ainsi que certains vous surnomment en Polynésie.
Ah oui,
touchez
oui,
pas
bah,
à la
bah,
mer.
Oui,
c'est vrai?
Ils me connaissent bien, ils me connaissent bien. Polynésie, c'est les gens, j'ai je bénéficie d'une gentillesse, c'est extraordinaire. Les gens, ils sont pas du tout, ils courent pas après les stars, ils sont pas là à vouloir faire un selfie, à vouloir embêter les stars, non, c'est pas du tout ça. Mais d'une gentillesse avec moi, ils sont incroyables et tout, et ils m'appellent touchez pas à la mer.
C'est
un peu comme danse avec les loups, quoi.
Oui, voilà. C'est un joli nom de totem, c'est superbe. Elle joue aussi sur la notion de frontière aussi, hein, cette chanson. C'est pas qu'une chanson écologique.
Au départ, c'était pas une chanson écologique, c'était parce que on voulait mettre des frontières, interdire des accès, parce qu'il y allait y avoir des fermes perlières ou des fermes, et c'est toujours actuellement, il y a encore des gens qui veulent prendre possession de certains lieux, et c'est dommage, quoi, parce que la mer, elle appartient à tout le monde, quoi.
Ouais. Depuis que vous voyagez, qu'est-ce qui a le plus changé?
Qu'est-ce qui a le plus changé? Ben, dans les endroits que je fréquente le plus, où je m'attarde le plus, très peu de choses ont changé.
Ouais.
On voit quand même que le réchauffement de la planète est à l'œuvre. On voit des rivages qui sont dévorés, on voit des cocotiers qui donnent très peu de cocos, etc. Les deux choses les plus impressionnantes et qui sont totalement indiscutables, quoi, c'est d'une part les glaciers, qui sont vraiment le canari en cage dans la mine, le glacier, parce que parmi les endroits loin de la mer qu'on a filmé, parce qu'on s'éloigne de la mer aussi parfois, on a filmé un parc américain à la frontière des États-Unis et du Canada qui s'appelle le parc des glaciers. Quand il a été créé au 19e siècle, il avait 130 glaciers et il en reste 23. Ouais. Voilà, qui ont disparu en 100 ans et quelque part. Et l'autre chose, vraiment, dans la plongée, on parlait de la beauté de la mer et de ce qu'il y a sous l'eau, etc. Mais c'est vrai que dans les Antilles et dans le reste du monde, il y avait ce qui était les corails, les cornes d'élan, qui étaient des coraux qui mesuraient jusqu'à 2 mètres de hauteur, quoi, qui étaient une forêt dans laquelle des millions de petits poissons trouvaient à se réfugier. Eh ben, ils ont disparu. En 30 ans, 95% ont disparu, quoi. Quand on voit un petit corps à cornes d'élan qui mesure 50 cm, on fait oh et ah, mais ils ont disparu, quoi.
Est-ce que le mot retraite a un sens pour vous, Antoine?
Le retraite, ben, j'envisage de prendre ma retraite d'ici 25-30 ans, quoi. Mais je continuerai à travailler, mais.
Alors, certains envisagent de se mettre à voyager pour leur retraite. Vous n'envisagez pas de vous poser?
Non. Tant que je serai en état de naviguer, je fête cette année, je viens de fin de fêter, donc mes 47 ans dans le désordre. Et j'espère encore avoir la forme pour naviguer quelques bonnes années quand même, principalement maintenant dans le Pacifique, parce que c'est l'endroit entre la Polynésie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Fidji, les Tonga, les Samoa, le Pacifique avant tout pour l'instant.
On vous le souhaite et on espère encore avoir de vos nouvelles régulièrement, ces cartes postales que vous nous envoyez. Le dernier film tourné, c'est à Cuba, il est disponible en DVD.
Voilà.
Et puis il y a ces livres que nous avons évoqués pendant cette émission, Escale en Polynésie chez Gallimard, ainsi que 40 ans de navigation, 40 escales, toujours chez Gallimard. Merci Antoine d'être passé par notre bivouac.
Merci d'avoir accueilli, c'était un sympathique bivouac.
Une histoire de plage mêlée de sable et d'eau, dans un coquillage la voilure d'un bateau qui se balançait sur le bord du soleil, emportant qui sait nos illusions nées de la veille. J'ai trop souvent fait naufrage pour n'avoir pas su dire, alors qu'il le fallait, avec des mots nouveaux, la mer que je t'offrais pour tes voyages. Je connais des vagues qui roulent doucement, en tissant des algues, les nuages poussent le vent, qui joue la couleur et qui peint la musique, en orchestrant les fleurs d'un casino aquatique. Je te donne l'océan pour que tu te souviennes des courses dans le vent que nous faisions ensemble, espérant que l'amour serait au large. Une histoire de plage mêlée de sable et d'eau, dans un coquillage la voilure d'un bateau qui se balançait sur le bord du soleil.
Une histoire de plage, c'était Brigitte Bardot sur France Inter. La programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Elsa Béranger. Et à présent, si nous allions manger un morceau.
Tiens, qu'est-ce que c'est que ça?
À la soupe! Soupe!
Bonjour Zazie Tavitian.
Bonjour Daniel.
Journaliste gastronomique au site Saumon, la culture à contre-courant dont nous sommes partenaires. Et tous les lundis, vous nous donnez une bonne raison gastronomique de partir pour une ville ou un pays. On part pour où aujourd'hui Zazie?
Alors aujourd'hui, je vais vous donner une bonne raison de partir au Proche-Orient.
Ouais.
Et vous l'entendez, je reste assez vague sur le lieu de destination car je vais vous parler du houmous et que ce n'est pas facile de savoir où le houmous est né.
Vous allez donc nous en dire plus, mais d'abord, le houmous c'est quoi?
Alors déjà, ça se prononce houmous, car en hébreu comme en arabe, il y a le H et ça se prononce R. Et le houmous, alors, c'est une préparation à base de pois chiches, réduite en purée avec du citron, de l'huile d'olive et du tahiné. Le tahiné, c'est une purée de sésame. Alors moi, j'ai voyagé en Israël, où on en consomme beaucoup. Il y a des chaînes qui sont spécialement dédiées à ça. Et là-bas, en général, on en prend pour le déjeuner. C'est un vrai plat que l'on mange avec une pita bien chaude. Et on ne le consomme pas vraiment à l'apéro comme nous, on le fait souvent en France.
Et alors, vous le disiez, son origine est compliquée, mais a-t-on une idée plus précise du pays d'où il vient ?
Eh bien, je me garderais bien de vous le dire, Daniel, car 8 pays en revendiquent sa paternité. Et je ne veux pas me fâcher avec les Libanais, les Israéliens ou les Palestiniens. Ce que l'on sait, c'est que les premières traces écrites parlant de pois chiches dans les préparations culinaires remontent à la Mésopotamie du 8e siècle avant Jésus-Christ. Le pois chiche était alors cultivé dans le croissant fertile. Et le houmous, comme on le connaît maintenant, c'est-à-dire le pois chiche cuisiné avec du sésame, daterait lui du 15e siècle où il serait apparu dans différentes régions de l'Empire ottoman. Alors aujourd'hui, plusieurs pays disent que le houmous serait né chez eux et on parle même de façon récurrente dans la presse de guerre du houmous.
Ah carrément, alors pourquoi ces pays se font-ils la guerre pour une purée de pois chiches ?
Eh bien parce que symboliquement, c'est bien plus qu'une simple purée de pois chiches. Akram Belkaïd, journaliste, l'explique très bien dans un article publié dans Le Monde Diplomatique de 2015, intitulé « La guerre du houmous ». S'approprier la paternité du houmous pour les Israéliens, c'est par exemple aussi s'ancrer dans la terre proche orientale et donc peut-être légitimer le fait d'être là. Ce produit, parce qu'il est de plus en plus en vogue dans de nombreux pays, c'est aussi une manne financière pour le pays qui l'exporte. Aux États-Unis, il représente $1 milliard de chiffre d'affaires. Donc le fait d'être reconnu pour le Liban ou pour Israël comme le pays créateur de houmous, ça peut aussi avoir un intérêt financier.
On le comprend. Hein. Et vous alors, Zazie, quel est votre houmous préféré ?
Eh bien, il y a une bonne solution pour manger un bon houmous neutre, c'est de le préparer soi-même. C'est vraiment très simple, il faut juste des pois chiches, du tahiné, du citron, de l'huile d'olive, du cumin et du persil. Alors ma recette, c'est de prendre des pois chiches secs, pas des pois chiches en boîte, ouais. De les laisser dans de l'eau une nuit, puis de les faire cuire une quarantaine de minutes, de les mixer avec un peu d'eau de cuisson, du tahiné, un demi-jus de citron, du sel, un peu de cumin, et ensuite d'ajuster la consistance avec le reste du jus de cuisson, et enfin de saupoudrer de cumin, de persil, et de déguster.
Miam.
Et voilà, miam, c'est celui que vous avez devant vous, justement, Daniel. Alors vous allez forcément me dire qu'il est délicieux.
Ben évidemment.
Comme c'est moi qui l'ai préparé cet après-midi. On mettra la recette sur le site. Et pendant que vous mangez, je recommande aux
il
auditeurs...
Il est délicieux.
Ah, merci. On sent que c'est sincère. Je recommande...
Ça l'est.
Je recommande aux auditeurs un très bon documentaire de Trevor Graham qui s'appelle « Make Hummus Not War ». Le documentariste part sur les pistes du hummus en interviewant des Israéliens, des Palestiniens et des Libanais. C'est vraiment de la géopolitique par l'assiette et en plus ça donne faim. Et les liens, on les met sur le Facebook de l'émission. Et une dernière chose qu'on aura pu remarquer durant tout ce mois d'août, c'est que pour ceux qui n'ont pas eu les moyens ou l'opportunité de partir voyager, il y a quand même toujours un moyen de voyager par l'assiette et c'est déjà une petite satisfaction et en plus c'est plus écologique.
Merci Zazie, c'était un plaisir de voyager avec vous par l'assiette pendant tout ce mois d'août et on va mettre bien sûr en lien sur la page Facebook votre recette de houmous délicieux que vous nous avez livré. On la retrouve aussi sur les pages du site dont nous sommes partenaires et où vous êtes journaliste, saumonparis.com. Merci à vous Zazie.
Merci.
Dans chaque départ, il y a un retour.
Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Dans chaque retour, il y a un départ aussi.
Demain, à 16h, nous prendrons la mer avec Claire Nouvian, qui milite depuis plus de 15 ans pour la protection des écosystèmes marins. Et à 17h, nous partirons à pied à travers les steppes de Mongolie, à la rencontre des chamans et des éleveurs nomades. À demain donc pour de nouvelles aventures. Et après le flash, vous aurez le plaisir de retrouver Charlotte Lipinska pour un nouveau numéro du Mag de l'été.